commence là, in utero. Nous venons tous de là, c'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons connu l'origine de la vie et nous avons enfoui le souvenir de ces 9 mois passés in utero. Jamais je n'aurais imaginé que cela puisse être si beau, si mystérieux, de regarder les images des premières cellules d'un embryon se diviser. Jean-Léon Maître, qu'est-ce qu'on a là devant nous? C'est encore une photo.
Donc c'est une photo donc, d'un embryon humain qui a 4 cellules. Et en fait, il s'apprête à passer à 5 cellules. Parce qu'on voit en rouge ici l'ADN de cette cellule qui est en train de se diviser. L'ADN vient juste de se séparer. Et donc la cellule s'apprête à se couper en deux pour faire une 5e cellule dans l'embryon.
Et ça, on le voit parce que les noyaux sont en rose, c'est ça?
Voilà.
Les noyaux sont en rose et la cellule
en bleu.
En bleu. Et on voit dans une des cellules que le noyau rose est coupé en deux. C'est séparé en deux.
On a capturé l'embryon au moment où cette cellule était en train de diviser son ADN en deux.
Extraordinaire. En plus, c'est beau.
C'est magnifique. C'est super beau.
Est-ce que vous vous y perdez dans ces images comme ça? Est-ce que vous pouvez rester des... Enfin, vous pouvez partir en rêverie?
Ces images, je les travaille hein, pour les rendre encore plus belles. J'arrange les couleurs et tout ça. Et donc, clairement, c'est quelque chose... Je passe beaucoup de temps à les regarder aussi. Ouais.
Ah, c'est magnifique. Nous sommes toujours avec Jean-Léon Maître, biologiste, directeur de recherche au CNRS. Je garde en souvenir de notre rencontre le sourire de Jean-Léon Maître, un sourire presque enfantin. Il est véritablement émerveillé par le développement des embryons. Et si, à ce moment-là de notre discussion, je ne comprends pas encore bien pourquoi, ce qu'il va m'expliquer sur les déplacements, les migrations et les pulsations des cellules de l'embryon va me laisser sans voix.
Est-ce que vous pouvez me montrer encore des choses?
Bien sûr.
En mouvement, non?
En mouvement.
Ouais.
Donc, on peut voir ensemble un autre film.
Alors, c'est fou parce que quand on dit qu'on parle là, on est en train de parler des origines de la vie. Et c'est impressionnant comme ça bouge. C'est idiot ce que je veux dire, mais c'est vivant. Enfin, ces cellules,
ouais.
Elles tremblent, elles frétillent.
C'est assez fascinant ouais, de regarder les mouvements des cellules. Donc moi, c'est très clairement ce qui m'a attiré vers la recherche sur le développement embryonnaire. C'est juste de voir ces films, de voir ces cellules bouger. C'est vraiment magique. C'est absolument fascinant de voir toutes ces cellules bouger.
Et c'est quoi justement ces petits mouvements que, dans cette division, ces petits mouvements de cellules comme ça, ce frétillement
Donc pour sculpter notre corps, les cellules doivent changer de place. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe dans le développement des animaux. Ça ne se passe pas chez les plantes, par exemple. Les plantes se développent aussi, mais les cellules ne changent pas de place. Dans les embryons d'animaux, les cellules vont bouger, elles vont se déplacer, elles vont migrer. Et par exemple, pour sculpter notre visage, qui va permettre de reconnaître votre famille, vos amis, pour sculpter notre visage, les cellules vont migrer, vont marcher. D'autres cellules. Il faut imaginer comme un banc de poissons ou des oiseaux qui volent en groupe. Il y a cette chorégraphie, ce mouvement collectif des cellules qui va sculpter notre corps. Parce que les cellules bougent.
Elles bougent à l'intérieur parce qu'il y a plusieurs mouvements.
Il y a plein de types de mouvements différents. Donc, il y a des cellules qui se divisent, ça fait un mouvement. Mais il y a aussi des cellules qui vont vraiment se déplacer, qui vont se détacher de leurs voisines pour aller à un autre endroit complètement différent du corps. Et donc, comme je vous disais, donc les cellules de notre visage, en fait, elles viennent de notre dos. Et elles vont migrer. C'est comme un grand voyage. Et elles vont venir donc sculpter notre visage.
Et ça, vous l'avez observé? Enfin, on le sait?
On ne l'a pas observé chez l'humain. Donc ça, encore une fois, il faut qu'on utilise d'autres animaux pour pouvoir le visualiser.
Mais à vous écouter, Jean-Léon Maître, je me dis quand même, on sait de plus en plus de choses, mais il y a quelque chose fondamentalement qui reste mystérieux.
Quand vous dites que c'est les cellules du dos qui vont faire notre visage, on ne sait pas pourquoi ces cellules-là décident de se déplacer. Et il reste quand même un mystère où j'ai l'impression... Enfin, vous voyez, vous avez beau m'expliquer tout ce que vous savez, qu'est-ce qui fait que ça se meut d'une certaine façon? C'est quoi cette vie, cette pulsion de vie?
Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de comprendre pour comprendre ce qu'est cette pulsion de vie. Donc nous, dans le laboratoire, on s'intéresse donc, aux forces que les cellules vont générer. Et donc je vous ai parlé de ces petits muscles que les cellules ont à l'intérieur qui leur permettent de générer des forces. Mais il y a plein d'autres types de forces. Et il reste encore plein de types de forces à découvrir. Qu'est-ce qui fait qu'un noyau va se déformer ou va rester très rigide et va garder sa forme? Qu'est-ce qui fait qu'une cellule va pouvoir s'étaler ou une autre ne pourra pas s'étaler parce qu'elle n'a pas assez de surface? Toutes ces propriétés physiques, mécaniques, on ne les comprend pas encore assez. Et donc là-dessus, il y a encore plein de choses à découvrir pour les aspects physiques. Donc ça, c'est encore une fois ce qui nous intéresse, nous. Mais si on regarde à l'intérieur de la cellule, si on regarde dans le noyau, si on regarde comment le programme génétique est mis en place, il y a encore aussi énormément de choses à découvrir que nous, on n'étudie pas parce qu'on n'a pas les bonnes connaissances pour. Mais il y a aussi donc, plein de choses encore à comprendre à... Quand une cellule se spécialise, comment elle mobilise son génome pour se mettre en action dans cette spécialisation? Donc ça, c'est tout ce qu'est l'étude donc, de l'ADN et de l'ARN messager. Donc, tout le monde
connaît maintenant.
Tout le monde connaît maintenant. Et donc tous ces aspects, il y a encore plein de choses à découvrir, évidemment. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on regarde, mais ça reste très, très intéressant aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit millier de questions. Enfin, on est loin de savoir.
C'est ça qui est génial aussi avec l'étude du développement embryonnaire. C'est qu'on peut étudier ce développement embryonnaire de plein de façons différentes. Donc moi, mon truc qui me fait lever le matin, c'est de mettre un embryon sous un microscope pour pouvoir le regarder se développer. Mais on peut aussi l'étudier d'une manière plus chimique, par exemple.
Ce que vous allez entendre maintenant est absolument fascinant. Fascinant et bouleversant. Parce que cela demeure un mystère. Parce que Jean-Léon Maître n'a pas d'explication à donner, il ne sait pas. Et pourtant c'est là, je le vois, sur l'écran de son ordinateur, dans son petit bureau à l'Institut Curie, bâtiment génétique et biologie du développement.
Okay. Donc ça, c'est pas confirmé chez l'humain, mais c'est la souris, c'est joli. Donc, ce qu'on voit là maintenant, c'est un film d'un embryon. Donc, on regarde un film où l'embryon, on le regarde toutes les 5 secondes. Et donc, toutes les 5 secondes, chez l'embryon, il se passe pas grand-chose, d'accord? Parce que pour que l'embryon humain ou de souris se développe, il faut des jours et des jours. Et là, on est en train de regarder un embryon presque en direct, en fait. Et ce qu'on voit quand on regarde un embryon en direct, c'est que les cellules bougent de manière rythmique. Elles dansent. Et cette danse, elle est due donc à une vague de contraction qui se propage à la surface des cellules toutes les 80 secondes. Toutes les 80 secondes, il y a une pulsation à la surface des cellules qui a un rythme. Et ce rythme, le premier jour, c'est un rythme de 200 secondes. Le deuxième jour, c'est un rythme de 120 secondes. Le troisième jour, c'est un rythme de 80 secondes. Ce rythme s'accélère.
Et ce rythme, il est dû à quoi? Parce que là, on voit ça bat.
C'est ça.
Là, le film, vous me montrez quoi? Il y avait 6, 7, 8 cellules.
C'est ça.
Et ça bat.
Exactement. Et ce battement, il s'accélère durant les 3 premiers jours. D'abord, c'est lent, puis c'est un peu plus rapide, et enfin, ça atteint son rythme de croisière, donc une pulsation toutes les 80 secondes. Et cette vague de contraction, on ne sait pas ce qui la contrôle. On ne sait pas. C'est encore à découvrir.
Et en plus, c'est magnifique, pardon, parce que là, vous montrez des images... verte et violette, ouais, c'est très beau.
C'est très joli à regarder, en effet. Et donc, on ne comprend pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est important, mais ce qu'on sait, c'est que quand une cellule doit choisir entre faire partie du placenta ou faire partie de l'embryon, elles vont battre de manière différente. Les cellules qui vont faire le placenta ne battent plus. Alors que les cellules qui vont continuer à survivre dans l'embryon continuent à battre. Et juste en regardant ce battement, on peut savoir quelle cellule fera partie de l'embryon et quelle cellule fera partie du placenta. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir. On peut voir ce battement, mais on ne sait pas si ce battement est important.
C'est important puisqu'on sait, ça va définir la place.
Sûrement. C'est les mêmes muscles qui font ce battement et qui déterminent la place de la cellule. Mais on ne sait pas si le battement en soi le fait que ça batte tous les 80 secondes, ou tous les 120 secondes, ou tous les 200 secondes, on ne sait pas si ça, cette fréquence de battement est importante. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas.
Parce que là, c'est très impressionnant, effectivement, ce rythme. Ça, c'est quoi? Une cellule, là, ce que je vois? Contraction?
Donc là, on voit deux cellules. Et donc, il y a cette cellule-là qui va faire l'embryon, et cette cellule-là qui va faire le placenta. Et en fait, donc...
Et on voit qu'elles ne battent pas pareil.
Elles ne battent pas pareil. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on regarde en direct, on voit le battement. Et si on regarde sur le temps long, le temps d'une journée, on voit qu'il y a une cellule qui rentre à l'intérieur et une autre qui reste à la surface. Et celle qui rentre à l'intérieur, c'est celle qui battait. Et celle qui reste à la surface, c'est celle qui s'était arrêtée de battre. Et donc, ce battement donc, permet de savoir à l'avance quelle cellule va être l'embryon, quelle cellule va être le placenta. Mais on ne sait pas ce qui contrôle ce battement. Et on ne sait pas si le battement en soi est important. Mais il nous permet de voir quelle cellule bat et donc quelle cellule va devenir l'embryon.
Parce que ça ressemble presque à un battement de cœur. Enfin, c'est comme ça qu'on imagine, je fais exprès. Je sais bien que je suis en train de dire, mais ça fait penser à un battement de cœur. Ça fait penser aux images qu'on a du battement de cœur, ce que j'ai devant
les
yeux.
C'est une contraction rythmique, de la même manière que dans le cœur. Et donc, au lieu de battre plusieurs fois par seconde, ça bat toutes les 80 secondes.
J'aime bien l'idée que ça danse comme ça. C'est une jolie idée.
Il y a des cellules qui dansent et des cellules qui se sont arrêtées de danser.
Mais qui ont dansé.
Qui ont dansé. Toutes les cellules ont dansé. Il y en a qui s'arrêtent, qui s'épuisent et qui vont faire partie du placenta. Alors que les autres qui continuent la danse, elles continueront pour toujours. Jusqu'à notre naissance.
Waouh. Mais je comprends que vous soyez fascinés. Hein.
Tout à fait.
Ce que j'adore, c'est votre sourire d'enfant, comme vous me dites tout à fait. En regardant les cellules des embryons danser, j'ai compris. J'ai compris ce qui anime Jean-Léon Maître. J'ai vu la puissance de la vie. N'hésitez pas à aller sur la page d'Inutero sur franceinter.fr pour regarder les films que Jean-Léon Maître a réalisés et surtout pour voir nos cellules danser. L'embryologie est en plein développement. On sait beaucoup de choses sur les embryons des animaux, mais moins sur les embryons humains. Parce que cette recherche pose évidemment des problèmes éthiques qui sont au cœur du débat scientifique. Si Jean-Léon Maître a accès à des embryons humains, c'est parce qu'il travaille en collaboration avec des laboratoires de fécondation in vitro.
Exactement. Donc, la grande majorité de la recherche dans le laboratoire se fait avec des embryons de souris. Mais on a aussi accès donc à des embryons humains, des embryons dits surnuméraires, qui sont donnés par des gens qui n'ont plus de projet parental. C'est une recherche qui est évidemment très encadrée par l'Agence de la biomédecine qui valide les projets qui sont proposés par les chercheurs. Et donc nous travaillons donc avec l'hôpital Cochin, avec le service de Catherine Patras, qui donc a des embryons qui sont donnés à la recherche, que nous pouvons utiliser dans notre laboratoire à l'Institut Curie pour faire quelques expériences. Par exemple, nous pouvons simplement prendre ces embryons et les mettre sous un microscope pour pouvoir les regarder se développer. Ou nous pouvons donc faire ces expériences de bras de fer, donc avec les cellules, pour voir si les cellules sont dures, si elles sont molles, si elles se mettent à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur. Et donc pour comprendre comment nous développons, mais aussi évidemment pour essayer d'améliorer les techniques de procréation médicalement assistée. Donc la procréation médicalement assistée concerne maintenant 4% des naissances en France. Il faut se dire que c'est un enfant par classe. Et donc c'est très commun, et donc ces enfants qui naissent sont en très bonne santé. On a maintenant beaucoup de recul sur toutes ces techniques, et les premiers enfants qui sont nés par procréation médicalement assistée.
Amandine.
Et donc je ne sais pas pour Amandine en particulier, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont nés par PMA, qui ont leurs enfants à eux, qu'ils ont pu avoir de manière naturelle ou aussi par PMA. Il n'y a pas de risque associé à cette technique.
Mais vous ne pouvez travailler sur ces embryons que jusqu'au 7e jour, je crois, ou 6e jour. Il y a une limite.
C'est ça. Donc, il y a une limite. Donc, il y a plusieurs types de limites. Il y a une limite technique, dont on pourra parler après. Il y a une limite, évidemment, éthique et une limite légale. La limite légale en France, c'est 14 jours. Donc, en France, on ne peut pas travaillé sur un embryon humain donné à la recherche pendant plus de 14 jours. Au niveau international, il y a une limite éthique qui est décidée par la communauté scientifique, qui est un petit peu au-delà de 14 jours. Elle est un peu plus flexible, elle n'est pas aussi bien définie. Et après, il y a une limite technique, dans le sens où, même si on essayait de faire développer ces embryons plus qu'une dizaine de jours, en fait, ça ne marche pas très bien.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'arrive pas encore à bien capturer l'implantation de l'embryon. Donc, au bout du 7e jour, l'embryon doit s'implanter. S'il ne s'implante pas, il meurt. Et donc, pour pouvoir continuer à étudier le développement embryonnaire, il faut qu'on arrive à faire une sorte d'implantation in vitro. Et ça, il y a quelques techniques qui marchent de mieux en mieux, mais qui sont encore très limitées. Et donc, on arrive à récapituler jusqu'au 10e jour, de manière à peu près correcte. Mais après, ça ne ressemble plus vraiment à un embryon. Cette limite, en France, elle a été déplacée l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, c'était 7 jours, et l'année dernière, c'est devenu 14 jours. Donc la première limite de 7 jours, c'était l'implantation. Et maintenant, la nouvelle limite de 14 jours correspond à un événement très très important dans la vie de l'embryon, qui s'appelle la gastrulation. C'est un moment dans la vie de l'embryon où tous les axes de l'embryon vont se former, donc tête, queue, dos, ventre, gauche, droite.
Ça, c'est vous dites tête-queue ?
Oui.
À cause le bout de la colonne vertébrale ?
Voilà, voilà. Donc on ne parle pas des pieds, on parle du bout de la queue. Donc évidemment, beaucoup d'entre vous savent déjà que même l'embryon humain, au début, a une sorte de petite queue qui se rétracte ensuite, qui se perd. Et donc on parle donc de l'axe tête-queue, ou plutôt de l'axe antéro-postérieur.
Et ça, c'est ça la blastu...
Non, la gastrulation.
La gastrulation.
Alors, il y a un chercheur très célèbre qui s'appelle Lewis Wolpert, qui a dit que le moment le plus important de notre vie, c'était pas la naissance, c'était pas le mariage, c'était la gastrulation. Parce que c'est à ce moment-là que, encore une fois, on fait tous nos axes de symétrie et qu'on va former les trois couches primitives de notre corps. Donc, on a des tissus qui sont en contact avec l'extérieur, des tissus qui sont en contact avec l'intérieur, donc tous nos intestins, et après on a tout ce qui est entre les deux. Et donc c'est à ce moment-là que les cellules vont choisir, elles ont un choix qui est plus binaire à ce moment-là, qui est triple, elles peuvent choisir donc entre être à l'extérieur, à l'intérieur ou entre les deux.
Et entre les deux c'est quoi ?
Alors ça s'appelle le mésoderme, et donc c'est tous les tissus qui vont faire le cœur, les muscles, les os aussi.
Les os, voilà. D'accord.
Avant que l'on se sépare, Jean-Léon Maître a tenu à me montrer ses nouveaux jouets. Ce sont les tout derniers microscopes avec lesquels il travaille. Ils sont dans le sous-sol de l'Institut Curie. Il s'agit d'instruments de haute technologie. Ces nouveaux outils ont permis à la recherche sur l'embryon humain de se développer ces dernières années.
Alors, on est où là ?
Donc là, on est dans le labo. Donc il y a des paillasses, il y a des microscopes. Et donc ce microscope en particulier, c'est un microscope qui est assez récent, c'est une nouvelle technologie qui est apparue il y a une quinzaine d'années, qui nous permet donc de faire des tranches de lumière pour découper l'embryon avec la lumière. Quand je dis découper, c'est pour voir seulement une tranche de l'embryon. Donc l'embryon reste intact, il est juste observé à un certain plan. Et tout le défi, en fait, c'est d'avoir nos embryons, qui sont les embryons de mammifères, qui poussent à 37 degrés, dans cette chambre d'incubation.
Que je vois là.
C'est ça. Et sous le microscope. Et donc, il faut faire un microscope avec une chambre d'incubation qui est confortable pour les embryons.
Et là, il fait très chaud, effectivement.
Voilà, il fait 37 degrés, et donc tout est chauffé pour que l'embryon soit au mieux. Et donc là, par exemple, on a un bain-marie où l'eau est chauffée à 37 degrés de manière très contrôlée. Et on a plusieurs objectifs de microscope dans lequel on va faire passer l'échantillon, donc l'embryon, dans ce bain-marie, et avec des lasers donc, qui permettent d'illuminer seulement des tranches de l'embryon.
Oui, ça ressemble plus du tout à l'image qu'on a du microscope qu'on avait cours de sciences naturelles.
Voilà, donc là, on ne regarde pas du tout l'embryon avec nos yeux.
Non.
On
ne
met pas nos yeux devant des oculaires. On a une caméra et on regarde l'embryon sur l'ordinateur, en fait. Donc les embryons de souris qu'on met sous ce microscope, on peut, à la fin, les prendre et les mettre dans une souris, et ils vont devenir une souris. De la même manière que quand on fait des fertilisations in vitro, à la fin de la croissance de l'embryon, on le transfère dans sa future mère pour qu'il puisse naître.
Il n'y a personne ?
Il n'y a personne.
Donc là, on est au moins un de l'Institut Curie.
C'est ça. Et donc là, on a un nouveau type de microscope qui est très récent. On l'a eu il y a moins de 6 mois. Et donc, c'est un microscope à pince optique. Alors, les pinces optiques, c'est quelque chose qui permet d'attraper des objets avec la lumière. Alors, il faut imaginer comme dans les dessins animés où on voit un ovni, une soucoupe volante qui vient et qui attrape avec un faisceau lumineux une vache dans un pré. C'est la même chose. Donc, avec un laser, on vient et on attrape un morceau de la cellule, un morceau de l'embryon, et on le bouge. Et de bouger ce morceau de cellule, ça nous permet de voir s'il est plutôt mou ou plutôt dur.
Ce que vous faisiez avec votre petite pipette.
Exactement. Mais là, au lieu d'entrer directement en contact avec une pipette en verre, on ne touche pas à l'embryon, on attrape les objets avec la lumière. Et donc la lumière a de l'énergie, et avec l'énergie qui est apportée par la lumière, on peut déplacer un objet. Alors une vache, c'est compliqué, mais un morceau de cellule, c'est possible.
On remonte.
Le microscope, c'est mon nouveau jouet.
C'est votre nouveau jouet?
Ouais, ouais. Donc là, ça fait 2 ans que j'essaye d'avoir ce nouveau jouet. Maintenant, je l'ai, je suis très content. Ce truc, ça m'a tué, quoi. Parce que quand on a pris les embryons, qu'on les a mis sous le microscope, qu'on commence à bouger le laser avec la souris et qu'on voit l'intérieur de la cellule qui bouge, j'étais comme un gamin. C'est vraiment top.
Mais le gamin, il est pas loin, hein, quand on vous écoute.
Ah ouais, c'est, de toute façon, c'est la recherche. Ça,
c'est ça.
On est des grands enfants.
Ouais.
On est des grands enfants.
Ouais, les grands chercheurs, vous êtes des grands enfants. Vous êtes un peu ailleurs aussi.
Il faut beaucoup d'imagination. Il faut de l'imagination, la créativité pour faire de la recherche, ça c'est sûr. C'est pas juste être bon en maths.
Non. Ça se voit quand on vous parle, en tout cas.
Il faut beaucoup d'imagination.
Avec Jean-Léon Maître, on a observé les 7 premiers jours de la vie d'un embryon. Mais que se passe-t-il après? Pour en savoir plus, je vais aller voir un de ses collègues. Il s'appelle Alain Chédotal, il est neurobiologiste du développement. Avec lui, j'espère comprendre comment l'embryon se développe dans les semaines suivantes. In Utero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard. In Utero est un podcast original de France Inter.